Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. L'aquaponie est la fusion entre l'hydroponie et la pisciculture, ce mode d'agriculture qui permet à la fois de cultiver des légumes et d'élever des poissons. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une ferme en aquaponie qui a vu le jour il y a quelques mois dans la Drôme. Gabriel, initiateur du projet de la ferme intégrale, nous explique sa démarche et son souhait de contribuer à l'autonomie alimentaire de son département. Aujourd'hui, dans les cantines scolaires environnantes à Valence et à Romans, il manque 600 salades par jour. C'est ce manque que Gabriel souhaite pallier. Dans un second temps, je reçois Laurane, responsable des plantations de salades et d'herbes aromatiques à la ferme intégrale. Elle nous parle de son quotidien en tant que responsable de production, mais également de ses souhaits et de ses rêves pour la ferme intégrale. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Gabriel.
Bonjour, bonjour.
Je suis ravie d'être là, de pouvoir enfin vous poser toutes les questions que j'ai sur votre activité. J'aimerais que vous commenciez par vous présenter, s'il vous plaît.
Alors, moi j'ai 34 ans, j'ai 3 enfants, 2 poules et 2 projets professionnels que je mène toujours liés au développement durable. C'est ça qui m'anime depuis l'enfance, j'allais dire mes études, mais non, c'est même avant ça. Voilà, et puis je suis ici dans la Drôme, au pied du Vercors, une région magnifique.
2 projets professionnels, quels sont-ils ?
Alors un projet sur le recyclage des plastiques dont on parlera pas forcément aujourd'hui, qui vise à enlever de l'enfouissement des plastiques qui y vont aujourd'hui. Et un deuxième qui est celui de la ferme intégrale, sur lequel je vous accueille aujourd'hui avec grand plaisir, qui s'implante localement dans une région qui a bien besoin de faire évoluer le contenu de son assiette.
Et alors justement, qu'est-ce que vous faites à la ferme intégrale et en quoi consiste ce projet ?
Alors la ferme intégrale, c'est une ferme, donc ça fait appel à l'agriculture. La ferme intégrale a pour vocation de produire 2 choses, à la fois du poisson et des plantes, inspirées d'une façon de produire qui s'appelle l'aquaponie. Alors l'aquaponie, pour tous, c'est assez simple, en fait c'est juste la contraction de 2 mots. C'est la contraction de aquaculture et d'hydroponie. Hydroponie, c'est la culture dans l'eau. Donc on a pris le début de l'aquaculture, on a pris la fin de l'hydroponie et on a fait l'aquaponie.
Et l'aquaponie, c'est une technique avec laquelle vous étiez déjà familier ?
Je l'ai découverte en arrivant du monde de l'aquaculture. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé pour développer des systèmes d'élevage de saumon dans les pays où on en fait, donc le Norvège, le Chili, le Canada. Et j'avais en face de moi les premières fermes innovantes, il y a de ça une petite dizaine d'années, en aquaponie. Qui m'ont intrigué, fasciné et finalement convaincu.
Comment est-ce que ça se présente une ferme en aquaponie ? Alors moi j'ai eu la chance de visiter la vôtre aujourd'hui, mais est-ce que vous pourriez la décrire pour que les auditeurs et les auditrices puissent tout de suite voir de quoi on parle et comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors déjà il n'y a pas une aquaponie, il y en a plusieurs. L'aquaponie se pratique déjà depuis des milliers d'années de manière empirique. Nous, on est venu mettre de la technique derrière cette notion empirique. L'aquaponie de balcon existe, avec simplement un ou deux poissons rouges qui vous produisent vos herbes aromatiques. L'aquaponie à grande échelle, à l'opposé, existe. C'est celle que nous voulons pratiquer. Et vous avez de l'aquaponie aussi à échelle intermédiaire, dans les villes et les villages de France et d'ailleurs, qui a une vocation surtout éducative, j'allais dire, de sensibilisation des populations. Nous, on s'est positionné sur ce volet à grande échelle, non pas en ville, mais à la périphérie des villes, pour des questions d'accès aux fonciers qui restent raisonnables et sur des surfaces qui ne soient pas limitées, qui permettent finalement une rentabilité, parce qu'on n'est pas une association, on est une entreprise, donc on a besoin de vivre de notre production. Et donc, on a fait le choix de se mettre à côté d'une ville, ici Romans-sur-Isère, parce que c'est à côté de chez nous. Mais demain, d'autres villes de France qui auront besoin d'appuyer sur plus d'autonomie alimentaire.
Est-ce que vous vous êtes inspiré de modèles français de fermes en aquaponie qui auraient déjà vu le jour ailleurs ? Est-ce que vous avez pu vous inspirer de votre parcours professionnel ? Comment ça s'est fait et pourquoi cette idée ici à cet endroit ?
Alors, j'avais la chance et la malchance de voyager, la chance pour découvrir plein de choses, la malchance pour mon empreinte carbone. Mais du coup, j'ai visité des fermes aux États-Unis, en Asie. Donc, j'ai vu tout un panel de fermes avec des choix technologiques plus ou moins aboutis et surtout plus ou moins poussés dans le niveau de technicité. Nous, on a fait le choix de garder la place du travailleur et de son expertise au centre de la production. Donc, on n'a pas des robots qui produisent à notre place. C'est nous qui produisons. Par contre, on a fait le choix d'une approche technologique qu'on qualifie, nous, de middle tech, donc entre le high tech et le low tech. C'est-à-dire qu'on a quand même des sondes, on a quand même de la mesure, on a quand même des capteurs, des alarmes. Tout ça pour servir une certaine excellence de production et donc une productivité, une rentabilité à terme, etc. Mais en gardant voilà, l'œil expert de Laurane, l'œil expert de Lucas sur chacun de leurs compartiments, de manière à aussi acquérir une expérience qui a de la valeur, qui est celle de celui de capable de résilier face aux événements non pas climatiques en l'occurrence, mais là aux événements de production, parce que le réseau peut se couper, parce qu'il peut y avoir des ravageurs, et comme on veut produire sans antibiotiques, sans traitements chimiques, etc., ben ça nécessite de travailler avec la lutte biologique, avec les éléments qu'on a autour de nous, avec la chaleur, etc. Mais voilà, dans le respect de l'humain et de ses compétences.
L'ambition étant d'achalander par la suite des restaurants, des cantines, des particuliers aussi ?
Tout à fait. Alors le but, c'est déjà d'achalander localement. C'est-à-dire qu'on veut rester à un marathon de chez nous, donc 42 km. Voilà, donc ça veut dire l'entrée de Grenoble au maximum. Ça veut dire Valence, Montélimar, les portes de Vienne. On ne va pas jusqu'à Lyon. En tout cas, pas avec cette première ferme-là. Donc, nos débouchés, pour le moment, on fait une petite quantité. Je vous expliquerai les phases de développement. Mais c'est d'abord le consommateur local à travers son réseau habituel de points de vente. Donc on est sur des regroupements d'agriculteurs producteurs, des magasins de producteurs locaux, du traiteur restaurateur et même de la grande surface. Et là je tiens à m'excuser et alors baisser mon chapeau parce qu'on n'aurait pas parié que ce seraient les premiers clients. Et le premier client est une grande surface.
Incroyable.
Incroyable mais vrai. C'est-à-dire qu'il y en a aujourd'hui qui ont pris ce virage de, à la fois de la bonne bouffe entre guillemets et puis de la production locale. Ils en font un argument de vente, c'est très clair. Mais aujourd'hui, ils jouent clairement cette carte locale et notre première livraison de salade la semaine dernière, c'était à une grande surface.
Génial, comme quoi les temps changent. Donc, vous l'avez dit, c'est une ferme en aquaponie. On a pu visiter, donc il y a une partie avec des bassins dans lesquels on retrouve les poissons. Ensuite, il y a la partie avec les salades et les herbes aromatiques. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette partie où on retrouve les poissons, donc la pisciculture, en quoi ça consiste et à terme, qu'allez-vous faire de ces poissons ? Est-ce que l'idée, c'est d'en faire des produits transformés, de les déguster ? Comment ça va se passer ?
Alors, sur la partie production, effectivement, c'est bien de commencer par les poissons parce que c'est là où l'eau arrive. On consomme de l'eau en très petite quantité, mais on en consomme quand même. Donc on fait rentrer cette eau propre et neuve dans le domaine des poissons, donc dans la partie piscicole, le début de aquaponie, l'aquaculture. Donc là nous élevons du sandre en France, qui est un poisson peu connu, excellent, je vous invite à le goûter dans quelques mois. Dans cette zone qui est finalement quasiment une chambre sanitaire, voilà, pas stérile mais presque, on est très très vigilant à qui rentre, et c'est pour ça que je vous ai fait laver les pieds et les mains avant de rentrer et visiter cette pisciculture. Là on est sur un système recirculé, on est sur une boucle d'eau dans laquelle évoluent les poissons. De temps en temps, cette boucle d'eau, il faut en vider un petit peu pour en remplir de l'eau neuve, pour finalement décharger la charge organique qui est dans cette eau. Et en fait, au lieu de la jeter ou de la renvoyer pour une pisciculture ouverte dans un torrent, une rivière ou dans les eaux usées, on va la transférer aux plantes via un système bactérien. Donc je passe juste 30 secondes là-dessus. C'est que pour rendre assimilables les déchets issus de la digestion des poissons par les plantes, il va y avoir des bactéries qui sont capables de passer d'une fraction organique vers une fraction minérale. Vous savez que les plantes n'ont pas de bouche, donc pour se nourrir, c'est avec leurs racines, et il faut que ces éléments nutritifs soient minéralisés. C'est ce que font les bactéries. Donc l'eau passe dans ces bactéries et bascule ensuite dans la partie plante, qui est la serre, la deuxième zone.
Et donc les poissons, qu'allez-vous en faire ensuite ?
Alors les poissons, déjà, c'est très long. Les gens pensent que ça pousse aussi vite qu'une salade. Non, ce n'est pas le cas. Il faut quasiment un an pour passer du juvénile, donc du poisson de quelques grammes, vers un poisson commercialisable de quasiment un kilo. Donc un an de patience, un an de prudence au niveau technique et sans erreur. Donc c'est toute la difficulté. Donc c'est, voilà, c'est pour ça aussi que le poisson n'est pas un aliment accessible au portefeuille de tout le monde, mais on est vigilant à rester sur des prix raisonnables. On n'est pas sur des prix du bio, etc. Et donc on vend ce poisson à tous ceux qui veulent l'acheter localement. Donc avec les mêmes en fait, canaux de distribution que les plantes. Simplement, on a une attente très forte des restaurateurs qui rêvent de mettre ça à leur carte, puisqu'aujourd'hui, la seule chose qu'ils peuvent mettre, c'est du poisson, soit d'un port, quand ils l'indiquent. S'ils veulent du poisson local, l'unique choix, c'est la truite. Vous n'avez rien d'autre qui est produit dans la région Rhône-Alpes que de la truite. Dès que vous voulez la profondeur de gamme, bah, il faut demander à des pêcheurs, mais du coup les quantités sont toutes petites, approvisionnement incertain. Bref, nous on produit une aquaculture qui n'est pas sur la truite, qui est sur le cendre, pour plein de bonnes raisons que je peux vous dévoiler. C'est simplement que le fait que le cendre est un poisson déjà qui est bon, donc c'est important pour le vendre, qui est produit en France quand même par des éleveurs, donc on peut s'approvisionner localement, et qui a un énorme avantage, c'est de vivre en eau chaude. C'est-à-dire que c'est un poisson qui va s'élever autour de 20 degrés. Alors, en ce moment, nous sommes au début de l'hiver, c'est pas un avantage. Il fait froid, donc ça demande une dépense énergétique. Mais en été, c'est un énorme avantage, puisque vous pouvez continuer à produire. Là où la truite doit s'arrêter l'été, dans des systèmes recirculés, ou alors nécessite de rentrer de l'eau froide avec des climatiseurs, enfin bref, au niveau écologie, on n'est pas au rendez-vous. Ce poisson-là supportera des eaux 20, 24, 25 degrés sans problème et continuera de grandir. Donc on va pouvoir produire toute l'année. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix qui n'est pas dans le sens de l'aquaponie d'aujourd'hui, qui va vers des standards truites essentiellement. Mais nous, on a pris ce contre-pied. Bon, c'est un choix, c'est un pari sur l'avenir. Mais en tout cas, on y va. Et on est fiers de commercialiser ce beau poisson. Il est vraiment délicieux.
Et c'était le choix le plus écologique en fait, qui s'offrait à vous
Oui, en pesant les différents éléments, en mettant tout ça dans la balance, on s'est dit, ben, soit on fait de la truite 6 mois par an, soit on fait du cendre 12 mois par an, en chauffant 4 mois. Mais finalement, cette chaleur qu'on doit produire, déjà, on la produit de manière la plus durable possible. On n'a pas fait le tour de la chaufferie, mais on va le faire juste après, avec du bois déchiqueté qui est un approvisionnement local. Et puis derrière, ça nous permet aussi de jouer la carte ultra locale avec ces restaurateurs, et ça leur va très bien. Donc chauffer les poissons, c'est de demande énergétique, mais une fois que cette chaleur est produite, elle est dans les poissons, on la bascule dans la serre. Et donc on va amener une chaleur fatale, c'est-à-dire une chaleur qui a déjà servi aux poissons, vers les plantes, qui vont en bénéficier, et en plus bénéficier du CO2 qui est dans la respiration des poissons. Donc finalement, c'est un choix qu'on a fait qui convient à nos valeurs et qui est sur notre ligne écologique.
Et pour le choix quant aux salades, aux herbes aromatiques, etc. Donc ça, c'est un autre bâtiment. Enfin, c'est dans le même bâtiment, c'est un autre compartiment de la ferme. Là, ce sont donc, on retrouve vraiment toute votre culture de salades, d'herbes aromatiques. L'eau et celle des poissons, et elle est acheminée, c'est ça ?
C'est ça. Donc, c'est l'ouverture de la boucle des poissons qui bascule, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans les plantes. Et donc les plantes vont flotter sur l'eau des poissons, vont développer leur système racinaire dans cette eau-là, se nourrir des nutriments qui sont maintenant accessibles grâce à nos amis bactériens, et finalement croître de saison sans avoir à rajouter de l'éclairage artificiel, parce que c'est pas notre choix. On reste sur de l'éclairage naturel. Donc on peut étendre la saison par rapport à une production plein champ. Néanmoins, on va pas démarrer les productions de tomates en janvier, en ce moment, c'est pas du tout notre choix. On étend la saison du basilic en fin d'été jusqu'à l'automne, on démarre tôt la saison des salades, mais on ne démarre pas une production de tomates au mois de janvier.
Et vous vous inscrivez dans une agriculture biologique ?
Et ben c'est un peu notre fardeau, c'est qu'aujourd'hui, même si on produit avec des méthodes d'agriculture biologique, nos graines sont issues de semenciers bio, etc., on ne peut pas avoir le label. Dès que vous sortez du plein champ, vous perdez la possibilité d'avoir le label d'agriculture bio. Donc c'est une frustration, c'est un combat qu'on a arrêté de mener, puisque c'est au niveau européen et que c'est pas nous, petits producteurs aquaponie, qui allons changer les choses. Voilà. On essaye simplement d'expliquer aux consommateurs notre façon de produire, qu'on est sans antibiotiques, qu'on est zéro pesticides, etc. Mais on n'aura pas l'agriculture bio. Et c'est aussi pour ça que nos produits, et ça nous va bien, s'inscrivent dans un prix de marché standard de produits frais et pas de produits bio premium. Donc tout un chacun peut s'offrir une salade de la ferme intégrale sans problème.
Oui, ça reste accessible.
Ça reste accessible. On vend notre salade autour d'un euro maximum. Donc rien de fou sur ces produits-là.
Donc vous le disiez, vous en êtes encore au tout début. C'est très récent. À terme, on l'a vu, vous allez bien sûr accroître la partie production. Mais quelle est votre ambition derrière avec cette ferme? Est-ce que c'est d'en voir d'autres grandir en France? Que ça se développe? Que ça se popularise aussi? Parce que finalement, c'est quand même assez atypique et original.
C'est atypique, c'est original, mais ça attire et ça intrigue. Aujourd'hui, on a des candidatures toutes les semaines de personnes qui souhaitent se mettre à l'aquaponie, des ex-informaticiens, comptables et autres professions en quête de sens. Nous, on attire quand même l'attention sur le fait qu'on a passé 3 ans à concevoir cette ferme-là avant de la construire. C'est un parcours du combattant au niveau réglementaire. Douce France aime beaucoup les dossiers. Donc voilà, je révèle rien, mais je le confirme. Donc voilà, on est assez prudent sur à encourager tout un chacun à se lancer là-dedans. Il faut avoir les épaules, les finances, les connaissances, un bon accompagnement, des politiques qui s'engagent à vos côtés pour vous aider à vous implanter dans un lieu. Donc voilà, le 24 mai dernier, on a démarré nos travaux après avoir travaillé 3 ans sur le projet. Donc 6 mois plus tard, la ferme est en production. 6 mois plus tard, après le début des travaux, mais 3 ans et demi après le début de la conception. Donc voilà, là effectivement, on a construit dans cette phase 700 mètres carrés avec une seule serre de production d'environ 500 mètres carrés pour les plantes, une petite pisciculture qui va sortir autour de 4 tonnes de poissons. Mais d'ici un an, on va faire l'extension. Et en fait, la ferme a été conçue et construite dans le but de cette extension-là. Donc on a les amorces des futures serres qui sont là au-dessus de nous, qui vont permettre d'étendre tout de suite les bâtiments sans avoir à reprendre la structure, la charpente. Tous nos systèmes de production sont calculés et dimensionnés pour la phase d'après. Donc ça, c'est notre premier grand projet, c'est de passer à pleine charge, j'allais dire, et pouvoir fournir 200 000 repas localement, pardon, et produit de manière la plus durable possible. Mais la suite, évidemment, et c'est notre business model pour les prochaines années, c'est d'essaimer. Et c'est d'aller vers d'autres villes de France sous différentes formes. Soit des porteurs de projets qui sont déjà en cours de réflexion et qui ont besoin d'un accompagnement technique, réglementaire, commercial avec notre bureau d'études, nos compétences. Soit c'est d'aller porter en propre ces projets-là avec d'autres investisseurs, avec des filiales, etc. Mais le but, c'est vraiment d'essaimer, de partager notre expérience et d'apporter cette brique nourricière à la porte des villes, comme on le fait ici à côté de Romans, mais pourquoi pas demain à côté d'Annecy, à côté de Dijon, à côté du Havre. Et c'est des projets qu'on a déjà dans les tuyaux, donc pour l'instant, on est en développement à faible vitesse sur ces choses-là, mais on va accélérer.
Venez à Annecy, s'il vous plaît, on en a besoin.
Annecy, c'est juste la pire ville en termes d'autonomie alimentaire de la région Rhône-Alpes. Vous savez quelle est l'autonomie alimentaire d'Annecy?
Je sais même pas, mais...
0,8% d'autoproduction. Donc en fait, il y a deux solutions. Soit il y a 0,8% des gens qui mangent à leur faim, ça fait pas beaucoup. Soit tout le monde mange 0,8% de sa ration alimentaire, notre fameux système alimentaire a été chahuté. Donc il est temps de changer ça. Dans la Drôme, ici, on a la chance d'être à 3. Waouh, bravo. C'est 4 fois Annecy, mais c'est toujours très faible. Donc voilà, le but, c'est de faire évoluer le contenu de l'assiette et d'arriver à un mode de production qui permette de monter à 15-20%. C'est atteignable en peu de temps. Ça nécessite de dédier des surfaces à une agriculture qui se transforme.
Est-ce qu'il y a d'autres régions où on atteint justement ces 15-20%?
Pas que je sache.
Et des pays?
Il y a des îles, parce qu'elles sont peu approvisionnées, donc elles sont obligées d'assurer cette autonomie alimentaire. Mais les flux étant très mondialisés, il y a de l'interdépendance entre chaque territoire. Donc c'est vraiment important de monter en capacité productive, et si possible avec des formes d'agriculture qui permettent des sols vivants. Nous, on n'est pas sur un sol vivant. Et c'est un reproche qu'on nous fait tout le temps. C'est-à-dire que vous avez construit des serres en plastique avec du métal, fait une dalle en béton, vous avez artificialisé des sols. Oui, mais on est sur une zone d'activité qui était de toute façon construite pour mettre des bâtiments industriels. Oui, mais l'agriculture plein champ ne permet pas la productivité qu'on a ici, consomme 90% d'eau en plus. Donc on n'a pas pour vocation de remplacer, on a pour vocation de compléter. Et ça, c'est important, c'est que Voilà, des fois on nous fait ce reproche-là. Les légumes n'ont aucun goût, ben venez les goûter. Et ensuite, cette agriculture est complètement artificielle. Oui, elle est artificielle. Elle permet de produire qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. On craint pas la grêle, etc. Donc, au moment, il faut prendre en compte l'environnement dans lequel on vit. Et déjà se dire, on va pas forcément faire un retour en arrière par rapport à la situation d'aujourd'hui, mais conserver le monde tel qu'on l'a aujourd'hui. Et voilà, notre réalisme pragmatique fait qu'on se dit qu'on va plutôt essayer de conserver plutôt que essayer de revenir à du pré-industriel, on n'y sera pas. Donc
vous avez aussi un travail de déconstruction à opérer auprès des consommateurs, leur faire changer d'a priori, d'idées reçues.
Ça dépend des consommateurs. En fait, on a les deux opposés. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous disent « Ouais, mais c'est génial, votre truc, c'est absolument fantastique. » Et d'autres qui tirent à boulet rouge sur notre façon de produire. On a fait le choix de rien cloisonner. Vous voyez, même vous êtes entré dans la ferme, il n'y a pas de portail. Et c'est volontaire, c'est-à-dire qu'on ouvre grand les portes de notre production. Et on essaie d'être le plus transparent possible sur comment on produit, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on consomme, de manière à rassurer et à recréer du lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une fraction qui s'est opérée depuis quelques années avec l'agriculture. On a, entre 30 et 40 ans, vous et moi, on n'a jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui par rapport à quand on était gamin. Sauf qu'on n'a jamais eu aussi peur du contenu de notre assiette. Donc c'est un peu paradoxal parce que finalement, les produits sont moins transformés, c'est moins salé, il y a moins d'adjuvants, etc. Mais il y a une crainte, qui existe. Donc comment est-ce qu'on recrée du lien ? Nous, on pense que c'est en étant transparent, en ouvrant les portes. Donc on ne propose pas à tous nos concurrents de venir visiter notre ferme, néanmoins on propose à tous les enfants de nos concurrents de venir éveiller leur cerveau à cette agriculture qui change pour qu'eux aient encore des meilleures idées que nous, et ça c'est possible. Donc on a des visiteurs entre 5 ans et 10 ans, et voilà, c'est le choix qu'on fait aujourd'hui.
Génial, vous le disiez, hein, mais vous avez l'ambition quand même de produire à grande échelle. Est-ce que c'est parce que vous pensez, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, que de toute façon, si on cherche des aliments locaux, de saison, etc., ça ne sera pas suffisant avec les cultures en plein champ ?
C'est pas suffisant, et en fait, on pallie à ce manque à travers de l'import. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien que dans les cantines, on parlait des enfants, rien que dans les cantines de l'agglomération sur laquelle on est, qui est Valence-Romans, il manque 600 salades par jour. Voilà. Et j'ai même pas été voir plus loin. Je dis, ok, le besoin il est là, il faut qu'on y aille. De la mâche ou du mesclun, des choses sont pas forcément faites ici. Donc même si c'est de l'import français d'une région dans l'Ouest, c'est de l'import quand même. Donc à la fois on s'interdit d'aller concurrencer les agriculteurs de parcelles voisines, à la fois on va aller chercher un produit qui est compatible avec notre mode de production, qui est manquant, sur lequel on va pouvoir venir combler une demande de marché. Voilà, donc notre positionnement il est celui-ci.
Est-ce que vous pourriez produire autre chose grâce à ce système, ou ça doit uniquement être des salades, des herbes aromatiques ?
On peut produire autre chose sans problème. Après, la question c'est est-ce qu'on arrive à garder l'eau ? Parce qu'il y a des systèmes goutte à goutte qui existent en aquaponie, mais vous perdez l'eau. Il y a des systèmes goutte à goutte dans gouttière où vous récupérez une eau à la fin qui n'est pas forcément exploitable. Donc on va faire des essais. C'est aussi le programme de la phase actuelle avant l'extension de capacité. On va faire des essais, mais il faut à chaque fois qu'on arrive à cocher nos critères écologiques, notre approche middle tech, évidemment les débouchés de marché, la non-concurrence avec nos voisins. Donc si ça coche ces cases-là, évidemment on ira produire. Pour l'instant on est sur ces légumes feuilles parce qu'ils sont pas carencés, ils poussent très bien en aquaponie, ils se vendent bien et on maîtrise ces paramètres.
Donc l'avenir nous le dira.
L'avenir nous le dira, on est fermé à rien. Voilà, simplement, on implémente les innovations et les choses les unes après les autres. Voilà, encore une fois, on est en production depuis peu de temps. Donc on se laisse le temps de progresser et d'évaluer des nouveaux modes de production. Le but étant aussi d'utiliser les espaces qu'on a. Pourquoi pas produire avec différents niveaux de production, toujours à l'horizontale, parce que c'est notre choix d'être en production gravitaire. Mais voilà, tout est possible. Revenez l'été prochain, il y aura sûrement des nouveaux produits.
Ok, c'est noté. Et c'est un système avec, j'imagine, les calculs de rentabilité, etc., que vous avez fait, qui vous permettra de vivre, de faire vivre vos salariés. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de témoignages d'agriculteurs pour qui c'est très compliqué, que ce soit en bio ou pas. Vous avez aussi cette ambition-là d'être à la fois écolo, mais aussi réglo sur le plan social.
Alors, on sait qu'on n'est pas rentable à cette échelle-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a construit 700 mètres carrés. ça ne sera rentable qu'à l'échelle suivante.
D'accord.
Ça, c'est quelque chose avec lequel on est parfaitement transparent avec nos investisseurs. On est en phase de rodage, on va passer à la capacité suivante. On a prévu dans notre business plan, notre modèle économique en restant bien français, 4 équivalents temps plein. Avec des gens payés décemment. Et puis de la formation, avec de l'accueil de stagiaires. On a la chance d'avoir à côté de chez nous un lycée agricole qui forme des jeunes aux nouvelles méthodes d'agriculture. Donc on est pour eux un centre de formation. Donc les premiers arrivent lundi prochain. Donc c'est aussi le souhait de transmettre, de former. La partie sociale, elle est au cœur du projet. Si vous voulez, tout le monde est associé ou en phase d'être associé. Pour être vraiment au cœur de l'outil de production en développant des compétences, il faut capitaliser sur le savoir-faire de chacun et donc les payer normalement, etc. Donc pour nous, c'est même pas une question et c'est même pas écrit dans nos statuts. On a écrit dans notre statut plus la partie écologique que la partie sociale, mais elle est tellement évidente que c'est pas besoin de l'écrire.
Ouais, elle est évidente, mais pour autant, aujourd'hui, c'est encore quand même assez précaire et difficile pour plein de travailleurs de la terre.
Ça c'est sûr, mais on n'est pas en terre, on est dans l'eau. donc
c'est différent. Ça vous sauve.
Voilà, ça nous sauvera peut-être.
Vous le disiez en tout début d'épisode, il est possible de faire de l'aquaponie sur son balcon ou à la maison. Mais comment est-ce qu'on fait si les auditeurs et les auditrices ont juste envie de s'y essayer? Est-ce que c'est possible?
Alors c'est possible, il ne faut juste pas vouloir manger son poisson, parce que le poisson rouge, ce n'est pas très bon. donc il vaut mieux prendre un poisson d'ornement, qui va, lorsque vous le nourrissez avec les granulés que vous choisissez dans votre jardinerie, évidemment faire des déjections. Ces déjections-là, si elles sont minéralisées par des bactéries, elles pourront faire pousser vos plantes aromatiques. Il suffit simplement d'avoir un support pour ces bactéries. Donc le plus simple, c'est de produire dans des billes d'argile vos plantes aromatiques et ensuite vous achetez vos graines ou vos plantes basilic, coriandre, cresson et autres bonnes petites choses pour assaisonner vos plats, et avec une simple petite pompe qui fait circuler l'eau entre le bocal de vos poissons, petit aquarium et votre eau bille d'argile de l'autre côté, vous allez pouvoir produire en saison vos plantes aromatiques sans avoir à rajouter de terreau et autres amendements organiques.
Génial, j'invite tous les auditeurs et les auditrices qui sauront cette technique de vous taguer sur les réseaux sociaux
avec
comme
plaisir.
Ça.
Surtout si ça ne marche pas, ce sera de notre faute, mais on vous expliquera pourquoi.
Vous pourrez les conseiller.
Voilà, on pourra les aider.
Merci Gabriel pour ces précieuses explications. Je vais désormais poser quelques questions à Laurane, qui saura nous éclairer sur les cultures de salade et d'herbes aromatiques à la ferme intégrale. Laurane, vous travaillez aussi à la ferme intégrale. Vous êtes responsable de production. En quoi consiste votre métier ?
Alors, moi, je m'occupe de la production surtout végétale, c'est-à-dire la production de toutes les plantes du semis jusqu'à la récolte qui pousseront dans le système aquaponique de la ferme intégrale. Donc, je m'occupe du coup des semis, à part certaines salades que l'on fait produire en jeunes plants avec un producteur local. Ensuite, je supervise donc les quantités, le choix variétal pour cette étape-là. Et ensuite, c'est transféré dans la serre où je mets les plantes donc, sur des radeaux flottants dans des bassins. Ensuite, je m'occupe de la surveillance des plantes. Je regarde s'il n'y a pas des maladies ou des ravageurs.
C'est possible, même si vous
bien
n'êtes
sûr,
pas en plein champ.
Bien sûr, c'est possible. Par exemple, peut avoir des pucerons qui arrivent. C'est quasiment même inévitable sous serre. Donc après, là, on intervient avec des produits qui sont autorisables en agriculture biologique, par exemple avec du savon noir que je pulvérise sur le feuillage. Et je suis de près l'apparition d'éventuels problèmes. Et puis après, j'enlève certaines plantes quand il y en a une qui est malade au milieu pour éviter que ça se transfère à tout le reste des plantes. Et puis ensuite, je m'occupe de la récolte. Donc c'est couper les salades et tout ça, les laver, les nettoyer. Les stocker et puis ensuite nettoyer les radeaux qui ont servi à la production pour les remettre ensuite dans le système.
Vous les réutilisez à chaque fois ?
Oui, c'est réutilisable. Là, les radeaux qu'on a achetés sont notamment certains qui sont vraiment très, très résistants, sont garantis 10 ans.
D'accord.
C'est durable.
Pour que les auditeurs et les auditrices puissent bien visualiser, donc là, on parle vraiment de la partie production qui donc se situe dans la serre. On a comme des grands bassins, en fait, hein, rectangulaires sur lesquels viennent flotter ces radeaux. Et sur ces radeaux, on retrouve des dizaines d'emplacements, en fait, dans lesquels vous allez planter, poser les salades et autres herbes aromatiques. Vous, est-ce que vous étiez familière avec ces méthodes d'aquaponie auparavant, avant de débuter votre carrière à la ferme intégrale ?
Alors, en aquaponique, non, c'est-à-dire en nutrition dans l'eau, mais nutrition organique, non. Par contre, j'étais familière de l'hydroponie, donc culture dans l'eau. Donc là, on retrouve cette composante-là, mais avec une nutrition minérale. Ça, j'avais 2 ans et demi d'expérience dans ce genre de système. Et du coup, là, c'est le vrai challenge, c'est de passer du coup sur une nutrition organique, c'est-à-dire issue des rejets des poissons.
Et qui repose que là-dessus ?
Alors, qui repose là-dessus sur l'essentiel, mais pas à 100%. C'est-à-dire qu'il y a quand même des petits ajustements à faire sur la qualité de l'eau, notamment une correction de pH. Ce serait fabuleux si ce qui sort des poissons après le biofiltre correspondait exactement aux besoins des plantes. Voilà, malheureusement, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et du coup, il y a des petits ajustements à faire. Justement, on doit compenser un peu le fer qui est déficient, éventuellement un peu le potassium. Mais ça, c'est des choses qu'on verra au fur et à mesure que le cycle de production se mette en place.
Ce qui signifie que vous, vous faites vraiment des mesures et des prélèvements de manière quotidienne ou hebdomadaire ?
Non, quotidienne, tous les jours, je vérifie le pH dans le bassin, au niveau des racines, le pH que les plantes, avec lesquelles les plantes sont en contact, et je surveille ça. Après, on a bien sûr une station d'irrigation qui s'occupe d'homogénéiser l'eau et de corriger, mais je vérifie quand même sur site que ça correspond à ce que je veux tous les jours.
Vous avez ici donc des salades, de la coriandre, du pak choi, du basilic. Est-ce qu'il y a certaines plantes qui sont un peu plus difficiles à apprivoiser que d'autres, avec lesquelles vous rencontrez un peu plus de difficultés ?
Oui, alors pas forcément toujours celles qu'on croit d'ailleurs. La laitue peut être un peu difficile dans le sens où la levée, la germination est très dépendante de la température. Et là, le défi se pose surtout en période estivale, où en fait il fait trop chaud et ça inhibe la germination de la graine. Donc il y a des petites choses comme ça. Voilà. Après moi j'ai envie de me mettre quelques défis. Donc à terme j'aimerais bien arriver à faire de la citronnelle. Vu qu'on est dans une serre chauffée du fait des poissons, ce serait tout l'intérêt d'avoir une production un petit peu exotique qu'on ne peut pas retrouver en fait. Voilà.
Tout en limitant l'impact.
En pleine terre localement. Donc voilà, moi j'aimerais bien partir un petit peu sur ce genre de production. Après, ça dépendra aussi du marché, bien sûr, mais on a les possibilités de faire des choses un peu différentes et je pense qu'il faut qu'on y aille.
Complètement, vous pouvez opter pour des aromates ou des plantes à feuilles un peu plus exotiques, d'Asie ou d'Amérique du Sud, je ne sais.
Oui, voilà, si la demande suit. Après... En fait, on part sur deux. Enfin, moi, je pars sur deux volets. Des choses, des variétés plutôt locales, parce que c'est aussi intéressant de valoriser le patrimoine semencier local. Et puis aussi, voilà, comme on est sous serre en hors sol, proposer quelque chose d'un peu plus large, quoi.
Je posais la question à Gabriel au préalable, mais je me demandais s'il était possible de cultiver autre chose, d'autres légumes, des fruitiers.
Alors oui, c'est possible de cultiver d'autres légumes. Là, on fait surtout du légume-feuille parce que c'est le plus adapté, avec le moins de corrections possibles sur l'eau, hein, comme on parlait auparavant. On peut aller faire du légume-fruit, type poivron, tomate. C'est peut-être quelque chose qu'on fera par la suite. Pour l'instant, notre système, il n'est pas conçu pour... Hein, parce qu'on est sur des radeaux flottants dans des bassins. Ça demanderait aussi probablement une compensation sur justement les apports nutritifs. Là, il y aurait clairement des déficiences, notamment en potassium. Il faudrait compenser largement.
Voilà. Donc ça demande quand même un autre travail.
C'est un autre système de culture.
Que vous pourriez pas les cultiver dans le même bassin.
Non, il faudrait une serre conçue différemment.
Merci beaucoup pour cette intervention et puis à bientôt.
Merci à vous.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un avis et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est ce qui me permet de faire grandir le podcast et de le faire découvrir à de nouvelles auditrices et de nouveaux auditeurs. Et bonne nouvelle pour les détenteurs de téléphones Android, vous pouvez désormais laisser des étoiles sur Spotify. Alors je compte sur vous pour soutenir Basilic en laissant 5 étoiles sur Spotify. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt.